Et affaire suivante revient sur l'affaire du tueur aux petites annonces. Alfredo Stranieri, c'est son nom. Il avait été condamné à la réclusion criminelle à la perpétuité avec une peine de sûreté de 22 ans pour 4 meurtres et une tentative d'assassinat. Il repérait ses poids grâce à des annonces avant de les escroquer puis d'usurper leur identité. Alfredo Stranieri est mort cette semaine. Elisa Tralin.
La presse l'a surnommé le tueur aux petites annonces, car c'est par le biais de publications de biens à vendre qu'il rencontrait ses victimes. Alfredo Stranieri est un habitué des transactions douteuses et des chèques bidons. En 1997, il acquiert cet établissement de Viry-Châtillon. 6 jours après la vente, l'ancien gérant Frédéric Hahnemann et sa compagne Nathalie Girard disparaissent dans la nature. Alfredo Stranieri s'installe au New Love et donne sa version des faits à ceux qui osent chercher les anciens propriétaires.
Et là, il me dit, écoutez, ils sont partis avec leur valise. Il va me distiller des informations les plus plausibles, mais les plus mensongères.
En janvier 1999, Alfredo Stranieri contacte le vendeur d'une Jaguar. Il lui donne rendez-vous dans la boîte de nuit et sort subitement une carabine 22 long rifle.
Il a commencé à me tirer dessus. Et je sais pas, l'instinct de survie, les choses en fait que... J'ai réussi à me sauver.
Repéré, Stranieri prend alors la fuite. Et 2 mois plus tard, revient aux affaires dans ce petit village de l'Aveyron. Le franco-italien acquiert cette auberge, la Bourriate, jusqu'ici gérée par Nicole Rousseau et son ami Claude Mouly. Encore une fois, Stranieri s'installe, tandis que le couple ne donne plus signe de vie.
Certainement que comme dernier occupant, il aura des explications à donner.
Grâce à la ténacité des familles de disparus, les 4 corps sont finalement retrouvés à l'été 99, enterrés dans les jardins de leurs propriétés respectives, le New Love et la Bourriate. Alfredo Stranieri est condamné en 2003 à la prison à perpétuité. 10 ans plus tard, il fait de nouveau parler de lui en revendiquant d'abord la paternité de la fille de Rachida Dati, puis en épousant derrière les barreaux, par provocation, le dépeceur de Montauban.
Bonjour Claire Corniou.
Bonjour.
Merci d'être sur le plateau. Vous êtes journaliste enquêtrice pour Au bout de l'enquête chez nos confrères de France 2. Bonjour maître François-Xavier Berger.
Bonjour.
Vous êtes l'avocat d'Alfredo Stranieri. Première question de façon très générale, mais est-ce que vous aviez, au-delà de l'horreur, et on va revenir sur ce qui s'est passé en détail, mais est-ce que Stranieri c'est un personnage de film? Quand on regarde sa vie, son trajectoire, le mode opératoire, puis aussi son volet vie privée dont on va parler, certes un film d'horreur, mais est-ce que vous le classez là-dedans, dans un personnage totalement hors norme?
Pour nous, avocats de la défense, on était 3 à le défendre, effectivement c'est quelqu'un qui est hors norme. Il est particulier, avec un point que je souhaiterais dire, c'est qu'il n'a jamais été exigeant avec nous. Dans notre métier, on a des clients qui sont exigeants, qui nous font des reproches. Lui ne nous a jamais fait le moindre reproche. Il nous a demandé de le défendre, ce que nous avons fait, avec beaucoup de difficultés parce que les charges qui pesaient sur lui étaient très importantes. Mais je dirais effectivement, c'est un dossier hors norme qui nous a marqué en tant qu'avocat de la défense.
Et pour montrer un peu qui était Stranieri, il va se lever devant les assises, il va parler. J'aimerais bien que vous nous racontiez, et puis on aimerait aussi avec Ronald, que vous nous racontiez ensuite quand vous allez le voir le lendemain en prison. Racontez-nous ça.
Alors ça, c'était à Créteil en appel. On était sur la dernière phase du procès. Nous avions plaidé à 3. Il y avait mon confrère Annabelle Montels qui avait plaidé le doute, la question du doute. Moi, j'étais en deuxième partie pendant 1 heure sur décortiquer les faits, parce qu'il y avait des éléments du puzzle qui manquaient, et nous étions liés par le système de défense du client, c'est-à-dire qu'on plaidait l'acquittement. Et il y avait ensuite mon confrère Jean-François Canis, qui est un pénaliste aguerri de Clermont-Ferrand, qui avait plaidé sur la personnalité, sur la peine. Et nous avions, pour la première fois, vu dans les jurés, dans la magistrat de la cour, qui nous écoutait. On avait l'impression d'avoir pu bouger ce bloc de béton qui pesait sur nous, alors pas pour avoir un acquittement, mais peut-être sur sauver
une peine un peu moins lourde.
Sur la période de sûreté, c'était ça qui était en jeu. Et nous plaidons, on se rassoit, et la présidente Claudine Forker, qui avait été remarquable, donne la parole à l'accusé. Monsieur Stranieri, avez-vous quelque chose à ajouter pour votre défense? J'avais vu avec lui, j'avais préparé, je lui ai dit, qu'est-ce que vous allez dire? Oh, je vais dire la même chose qu'à Évry. C'était très simple, il avait dit 3 mots. Les parties civiles voulaient des aveux. Je maintiens, je n'ai tué personne. Je lui ai dit, écoutez, ça va très bien. Il se lève. Il se tourne vers la présidente et dit « Madame la présidente, je voulais vous remercier, vous avez été très professionnelle, j'ai pu m'exprimer. » « Très bien. Ensuite, je voulais remercier mes avocats. » « Je dis très bien. » Et ensuite, il dit « En revanche. » Et là, il se lance pendant une minute dans une diatribe à l'encontre de nos confrères de la partie civile. Et en 30 secondes, il saborde tout notre travail de 5 années de défense. Mon confrère Jean-François Canis est à mes côtés, il me donne coup de coude, il me dit « Mais qu'est-ce qu'il nous fait là ?» Et je lui dis « Mais c'est Alfredo Stranieri. » Donc on savait que c'était perdu, il n'y avait plus de suspense sur la peine, nous étions défaits, et le lendemain, nous sommes allés le voir à Fleury-Mérogis, avec, je dirais, la tête des avocats qui assistent leurs clients.
Ils viennent de prendre la fête avec 22 ans.
Ouais. Et on savait qu'ils ne ressortiraient pas, tout simplement parce que pour sortir, il faut avouer. Et on savait qu'il n'avouerait jamais, et ce n'était pas notre rôle de lui dire d'avouer. On était là pour le défendre.
Et là, il vous dit.
Et là, il arrive, il a un grand sourire, et il tend la main à ma consoeur Annabelle Montel, dont c'était la première plaidoirie aux assises, et il lui dit, alors, pas trop déçu, voilà ce qu'était Alfredo Stranieri.
Moi, je vais tendre la main à Claire Corniou. Ça commence pour le rachat d'une boîte. Oui. D'un club qui s'appelle le New Love en banlieue parisienne. Comment ça se passe? Est-ce qu'il s'explique pour le pourquoi de la petite annonce où il répond, où il provoque lui-même? Comment ça se passe précisément? Est-ce qu'il l'explique ça?
Ah non, c'est juste qu'il est à l'affût, il regarde, il lit les petites annonces régulièrement et là il voit la mise en vente d'une discothèque. Et ce qui est bien avec Stranieri, c'est que si vous voulez, c'est un peu le pigeon rêvé pour tout vendeur puisque lui il achète sans négocier.
Il négocie jamais.
Il négocie pas. Là, en plus, le prix était un petit peu élevé. Ça le gêne pas. Et donc, forcément, quand vous tenez un client par elle, vous le laissez pas partir. Donc, très naturellement, Frédéric Adman et Nathalie Girard sont tombés dans ce qui, en fait, était un piège. Mais eux n'en avaient pas idée. Quand ils ont appelé pour prévenir qu'ils mettaient en vente, c'était « on a trouvé le bon pigeon ». Le bon pigeon, en fait, était un tueur. C'était pas un pigeon, c'était un coucou, comme on l'a surnommé.
Alors, c'est la question, elle est encore gagnante, parce que le coucou, c'est presque le meurtrier des petites annonces, le tueur des petites annonces, c'est facile, on comprend. Oui. Mais le coucou, c'est plus réaliste.
Ça
lui correspond vraiment à sa personnalité. Oui. Vous nous expliquez pourquoi?
Mais en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il convoite. Il convoite le lieu de vie d'autres. Mmh. Ou les affaires d'autres, parce qu'en fait, Stranieri se rêvait un peu comme un grand entrepreneur, un grand chef d'entreprise. Quand il parlait du New Love, d'ailleurs, on avait l'impression que c'était la dernière discothèque à la mode, un lieu très sélect. Quand vous rentrez dedans, en fait, tout était défraîchi.
On voit les images, et oui, c'est pas, voilà. Ça donne pas envie.
Le lino ne tenait plus très bien. Enfin, voilà, un endroit charmant. Donc Stranieri, voilà, il convoite, il s'accapare le lieu, il se débarrasse des occupants.
Le coucou.
Comme le coucou.
D'accord. Il fait ça pour la boîte de nuit à Viry-Châtillon, le New Love. Et puis, il va ensuite essayer d'acheter, comme il est propriétaire d'une boîte de nuit, il lui faut la voiture qui va avec. Donc, il va répondre à une petite annonce, un gars
pour
qui vend sa Jaguar. Racontez-nous.
Alors, ça aussi, c'est exceptionnel. Là encore, il ne négocie pas. Il se présente comme patron d'une boîte de nuit. Mmh. Il se présente d'ailleurs comme Frédéric Adman, c'est-à-dire sa victime. Mais à ce moment-là, on ne le sait pas. Et il arrive au lieu de rendez-vous avec une Clio pourrie. Pire que la mienne, je pense. Et là, Simon Cohen, le vendeur de la Jaguar, il est un petit peu interloqué. Là, il l'emmène en plus faire le tour du propriétaire. Donc, c'est là où il découvre le New Love. Il est encore plus interloqué. Mais comme on lui dit, le chèque de banque va arriver, il attend. Il attend jusqu'à se faire tirer dessus. Et heureusement qu'on a Simon Cohen, parce que c'est un peu ce qui a éclairé aussi le mode opératoire de Stranieri, finalement.
Mmh. Et là, donc, il disparaît. Il tire sur Simon Cohen et lui, il disparaît, Stranieri, alors qu'il est marié, il y a une femme qui n'aura plus de nouvelles de lui et on le retrouve, je résume un peu.
Ils étaient en séparation,
d'accord.
Donc, il avait aussi une maîtresse.
Ah oui, d'accord.
Donc, oui, il ne mentait pas vies. Que pour ses propriétés, il mentait un peu à tout le monde, je pense.
Et là, il y a une autre affaire dans l'Aveyron, maître.
Oui.
C'est l'auberge de la Bourriate.
L'auberge de la Bourriate.
Il est innocent, puisqu'il vous a toujours dit.
Alors moi, je suis... Parce qu'on... Très clair, l'avocat, lui, est lié par le système de défense du client et on est là pour assurer, je dirais, une défense technique, c'est-à-dire vérifier la procédure, qu'il y ait droit à un procès équitable. Et ensuite, on est lié par le système de défense, c'est-à-dire
parfois difficile. Et on est là pour dire au client, bah, écoutez, là où vous avancez ça, ça va être difficile. C'est ce qu'on lui a dit d'ailleurs. Mais on est resté toujours sur ce système de défense qui était un peu bancal, mais on était tenu par...
Pardon, je vous ai interrompu, mais emmenez-nous dans l'Aveyron à La Bourriade.
Alors La Bourriade, c'est une auberge qui avait été refaite, qui était très jolie. Et c'est là où il est accusé, c'est là où il va être arrêté. Puisqu'il y a une particularité de ce dossier, c'est que ce dossier commence en novembre 97, quand Nathalie Girard et Frédéric Hartmann disparaissent. Il se termine en juillet 99, le 7 juillet 99, lorsque Alfredo Stranieri est placé en garde à vue. Et en fait, entre 97 et juillet 99, il ne se passe rien, en dépit des plaintes des familles et des diligences qu'elles sollicitent des services d'enquête parisiens. En revanche, lorsque les aubergistes de La Bourriade disparaissent, le parquet de Rodez est saisi, et ça va très vite.
Et c'est la fille du propriétaire Claude Mouly qui est très inquiète, c'est pas dans les habitudes.
Voilà, et le parquet de Rodez est très réactif, à tel point que en 2011, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France pour inaction. C'était Claude Girard qui avait saisi la Cour européenne, en rappelant que l'article 2 de la Convention européenne, qui protège le droit à la vie, impose aux autorités d'effectuer une enquête en cas de disparition. Elle a retenu la violation de l'article 2 et elle met en comparaison l'inaction des services parisiens par rapport à la rapidité avec lesquels les services aveyronnais ont agi. Donc c'est une particularité de ce dossier.
Ouais. Donc le coucou à Viry-Châtillon, le coucou dans l'Aveyron et on retrouve les corps.
Oui. Ce qui est une autre particularité d'ailleurs de ce dossier, effectivement, vous l'avez un peu mentionné, c'est aussi le combat des familles.
Dans les deux doubles assassinats.
D'un côté, on a un père qui va se battre comme un lion pendant 2 ans pour alerter sur la disparition de sa fille et qui, de facto, va se heurter à l'inaction de la police en région parisienne.
C'est le père de Nathalie Girard, la vente du Nouveau.
Et puis, de l'autre côté, on a la fille de Claude Mouly qui, pareil à sa disparition, va s'investir énormément. Elle va aller jusqu'à habiter la dépendance de La Bourriade, puisque la dépendance n'avait pas, elle, été vendue. Donc, elle s'installe dans la dépendance. Elle s'y barricade, parce qu'elle a quand même un petit peu peur du Stranieri qu'elle observe et qu'elle épie tous les jours. Elle s'y barricade. Elle va mettre une armoire normande devant la porte, etc., parce qu'elle a un petit peu peur pour sa vie. Et c'est elle qui, au début, mène l'enquête et qui retrouve, par exemple, les cachets pour le cœur de son père. Cachets sans lesquels il ne serait jamais parti. Donc, tous ces éléments-là, et après c'est elle qui va voir la gendarmerie. Ce qu'elle ne sait pas, elle, c'est que cette fois-ci, la gendarmerie, elle, a pris au sérieux son affaire et investigue.
J'ai une dernière question pour vous, parce que quand je pose la question de personnage de film, certes film d'horreur, personnage en norme, c'est qu'il est condamné, il est en prison. En prison, ça va être le premier détenu à procéder à un mariage gay avec son co-détenu. Et le co-détenu, évidemment, et ça rajoute, ce n'est pas n'importe qui, c'est le dépeceur de Montauban, et les témoins de ce mariage, c'est Dieudonné et le terroriste Carlos. On est quand même dans une autre dimension.
Bah, pour moi, ça reflète bien la personnalité de Stranieri. En fait, ce qui se passe en prison, ça donne encore plus de clés pour le comprendre. Mmh. On est dans quelqu'un qui est hyper narcissique et qui, en fait, voulait exister. Et pour lui, au fond, une fois en prison, il était hors de question qu'il se fasse oublier. Donc, il a trouvé des moyens de faire parler de lui.
C'était le provocateur. Vous êtes resté en contact avec lui
Alors, la dernière fois que j'ai vu, c'était à Fleury-Mérogis. Après, il y a eu des échanges épistolaires. Mais comme je vous l'ai dit, nous savions que la libération serait difficile puisqu'il a fait ses 22 ans de sûreté. La période de 22 ans s'est achevée en 2021. Mmh. Et d'ailleurs, lorsqu'on se dit souvent qu'il y a une libération, non, il fallait qu'il travaille et qu'il avoue. Et ses actes de provocation l'ont desservi sur ce travail.
Dernière question, très vite, parce qu'il faut qu'on aille très vite. Qu'est-ce qu'on fait de son corps à Stranieri?
Alors ça, je pense qu'il est rendu à la famille.
Il a encore une famille.
Oui.
Merci beaucoup, Maître François-Xavier Berger. Merci beaucoup, Claire Cornu, d'avoir été sur le plateau d'Affaires Suivantes. Merci beaucoup, Dominique. Numéro 290, c'est la semaine prochaine, mais ce sera sans vous. Je crois que j'aurai le plaisir d'être avec Laurent Valdiguier. On se retrouvera dans 15 jours, évidemment, toujours avec
plaisir. Je vais me reposer un peu.
Vous le méritez. Bon après-midi. Merci beaucoup.
Merci.